Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Dans un peu plus d'un mois, nous célébrerons la Pâque et la fête des pains sans levain. Ces fêtes marquent l'amorce d'un processus qui mènera tout compte fait à la réalisation de notre ultime destinée. Nous avons, vous et moi, été appelés. Ce processus, notre Père Céleste l'a mis en branle. Il nous a attirés à lui. Il nous a fait venir à Christ. Lui seul peut faire cela, comme l'indique Jean chapitre 6, ou chapitre 6, verset 44 et les versets 65. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les deux premières fêtes de l'Éternel, la Pâque et la fête des pains sans levain, marquent le début du processus de reconversion, pourrait-on dire, de ce que Dieu appelle. Le Père nous appelle pour faire de nous ses enfants, son équipe de dirigeants, pour seconder son Fils dans son royaume. Ces fêtes, nous devons nous y préparer. S'il y a un moment de l'année, nous pouvons appliquer les paroles de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5, c'est bien maintenant. Dans ce passage de l'Écriture, Paul dit ceci aux Corinthiens de son temps, et à chacun de nous par voie de conséquence. Nous allons nous reporter à ce passage, 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Pour bien nous examiner, nous devons commencer par faire le bilan des quelques 12 mois derniers et honnêtement nous demander si nous sommes à présent plus convertis et de meilleurs chrétiens que l'an dernier. Nous demander honnêtement si nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, remporté des victoires sur nous-mêmes, si nous avons immensément besoin de Christ, si c'est ce que nous ressentons finalement. Nous avons besoin de cet ultime sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour être réconciliés au Père et croître dans la grâce et dans la connaissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 et 29, à propos de la Pâque, Paul écrit ceci, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Que nous faut-il pour bien nous préparer aux fêtes de printemps et pour les célébrer convenablement ? Pour aussi pleinement discerner le corps de Christ? Un docteur de la loi qui posa un jour à Jésus la question « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Christ répondit ceci « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Vous connaissez le passage, c'est dans Luc 10 et le verset 17. Entre autres. C'est là une condition sine qua non de notre préparation. Premièrement, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Il nous a dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Dans le grec, pour cœur, le mot est cardiaque. Nous avons cardiologie, etc. Dans ce contexte, avec une pleine sincérité. De toute notre âme. Dans le grec, le mot âme est l'équivalent de l'hébreu nefesh. Il s'agit de psouché. Dans ce contexte, il est question d'impliquer toute notre vie, pourrait-on dire tout notre souffle. De toute notre force. Dans le grec, le mot traduit par force est ischoui. I-S-C-H-U-I. Autrement dit, ici, avec toute notre énergie. Et de toute notre pensée, dans le grec, le mot pour penser est dianoïa, D-I-A-N-O-I-A, soit avec une pleine conviction intellectuelle. Autrement dit, nous devons être totalement impliqués physiquement, moralement, émotionnellement et spirituellement. En effectuant notre bilan annuel avant la Pâque, je suis sûr que nous pouvons tous dire que nous pouvons mieux faire. Mais je peux également dire que le peuple de Dieu fournit généralement de gros efforts pour s'améliorer, car il y a généralement en nous l'amour de la vérité. Et c'est bien là le deuxième élément important dans notre préparation pour les fêtes de printemps, frères et sœurs. Deuxièmement, nous devons aimer la vérité. Je répète, nous devons aimer la vérité. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre et à pratiquer, n'est-ce pas? Il nous faut parfois souffrir car notre nature humaine lutte. Elle lutte encore et cherche à reprendre le dessus. Et avec tout le mensonge qui existe autour de nous, découvrir et s'attacher à la vérité n'est pas une sinécure. Aimer Dieu, notre prochain aussi, consiste à suivre notre idéal et notre vocation. Et étroitement attaché à cet idéal et à cette vocation est le degré d'amour pour la vérité que nous devons avoir. Sans amour pour la vérité, notre cheminement et notre ultime destinée demeureront inaccessibles. Paul a évoqué cette caractéristique des vrais chrétiens que n'ont pas ceux qui périssent, du fait de leur orgueil, de leur rébellion et de leur méchanceté, et du fait qu'ils prennent plaisir à l'injustice. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 13, Paul parle en effet de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, de tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. L'amour de la vérité exige beaucoup de courage, d'honnêteté et d'humilité. Je reviens souvent sur ces qualités chrétiennes fondamentales. Troisièmement, nous devons nous souvenir que nous étions jadis, pourrait-on dire, dans le camp des boucs. Je répète, troisièmement, nous devons nous souvenir que nous étions jadis dans le camp des boucs. Je m'explique. Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Matthieu 25 et le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce qui différencie les brebis des boucs? Je sais que les brebis n'ont pas toujours bonne presse. Quelqu'un, il y a plusieurs mois, m'a envoyé un article énumérant une centaine de défauts qu'ont les moutons, les brebis. Mais je préfère me concentrer sur l'idée que Christ se fait de ses brebis. Les brebis de son troupeau. Quand Christ parle de ses brebis, il évoque leur bonté, leur douceur et leur loyauté. Cela me rappelle 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 et le verset 3 où le prophète Nathan parle à David d'une petite brebis qu'un pauvre avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Cela évoque beaucoup de douceur, de tendresse et d'affection. Les brebis symbolisent la gentillesse et la soumission. Je pense à Isaïe 53:7 aussi, où, prophétisant les souffrances de Christ, David déclare « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Et puis parlons des rapports étroits existant entre les brebis et leurs bergers. Rappelez-vous Jean chapitre 10, les versets 3 et 4. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Notre berger nous connaît mieux que quiconque, et même nous-mêmes. Il sait de quoi nous sommes faits, à quel point nous sommes fragiles, vulnérables. Il connaît tous nos défauts. Et pourtant, il nous aime. Il nous conduit. Il marche devant nous, nous montrant le meilleur de tous les exemples. Et nous marchons derrière lui, car nous connaissons sa voix, qui est celle de la vérité. Par contre, que dire des boucs? Les boucs, si l'on en croit ce que nous disent les bergers qui en ont, cherchent toujours à se faire valoir, quitte à écraser les brebis. Ils bousculent les autres bêtes du troupeau. Ils ne pensent qu'à eux. Ce sont des brutes qui ne pensent qu'à maltraiter et à intimider. Un peu comme les pharisiens du temps de Christ, et comme les brutes. À cet effet, reportons-nous à un passage d'Ézéchiel qui décrit les boucs de ce monde. Ézéchiel, chapitre 34, et le verset 17. Ézéchiel 34. Et le verset 17. Je pense qu'il est bon pour nous à cette époque de l'année, alors que nous faisons notre bilan spirituel, de penser à ces choses, d'établir le contraste entre le monde et ce que nous étions et ce que nous sommes en train de devenir. Ézéchiel 34, verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Il s'agit des boucs, ce sont eux qui font cela. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est intéressant comme analogie, n'est-ce pas? C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Dieu s'en prend ici au berger spirituel d'Israël, mais l'analogie avec les boucs est frappante. Dans Matthieu 25 et le verset 41, je ne m'y reporterai pas, mais je le citerai simplement, il est écrit à propos des boucs, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le symbolisme entre les brebis et les boucs, les bons et les mauvais, est frappant. Même si nous n'étions pas des criminels, nous étions malgré tout, jadis, et ne nous berçons pas d'illusions, dans le camp des méchants, et si je puis dire, des pécheurs professionnels. Le péché était pour nous une habitude. Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 3 et le verset 23, nous devons nous souvenir de ces choses à l'approche de ces fêtes, pour bien nous examiner nous-mêmes. Et dans quelle mesure ces choses s'appliquent-elles encore à nous? Romains chapitre 3 et le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et même encore, si nous fournissons des efforts pour vaincre, pour croître, pour nous améliorer, il nous arrive encore de pécher. 1 Jean chapitre 1 et le verset 8. 1 Jean chapitre 1 et le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est là le constat que Dieu dresse de nous. Mais nous avons été rachetés. Nous avons été justifiés. Et nous sommes à présent les prémices bien-aimées de Dieu. Et c'est pour cela que nous prenons notre préparation à la Pâque très au sérieux. Pour bien nous préparer aux fêtes de printemps, quatrièmement, nous devons nous rappeler que nous allons juger le monde. Et nous devrions donc commencer par nous juger nous-mêmes. Je répète, quatrièmement, pour nous préparer aux fêtes de printemps, nous devons nous rappeler que nous allons juger le monde. Et nous devrions donc commencer par nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Nous sommes à un moment de l'année où nous jugeons les choses de cette vie, frères et sœurs. Comment jugeons-nous les choses de cette vie? Comme Paul? Que faisait Paul? Comment raisonnait Paul? Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens chapitre 3 et le verset 8. Je regarde toute chose comme une perte. Est-ce qu'il en va de même pour nous, frères et sœurs? Est-ce que nous regardons toute chose comme une perte, toutes ces choses physiques, comparées au royaume, comparées à notre avenir? Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que nous avons renoncé à tout? Est-ce que nous renonçons encore à tout? Est-ce qu'il y a encore des choses dans ce monde qui nous attirent, qui nous intéressent? Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi ou du respect de la loi, comme si cela allait me rendre digne de quoi que ce soit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice, quand on parle de justice, il est question d'un certain comportement, n'est-ce pas? La justice qui vient de Dieu par la foi. La foi a des fruits. On pratique ce qu'on croit à nouveau. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est notre processus à tous. Nous aussi, nous devons devenir conformes à lui et faire mourir le vieil homme. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La Bible déclare que les anges déchus ou démons seront un jour jugés. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il les réserve pour le jugement, cela veut dire que leur jugement final et officiel n'a pas encore eu lieu. Reportons-nous également à Jude 6. Jude, juste avant l'Apocalypse, Jude 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Là encore, et cette fois, ce n'est plus Pierre qui parle, mais Jude, il est écrit que Dieu réserve pour le jugement les anges déchus, les démons. Leur jugement final n'a donc pas encore eu lieu. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, que nous jugerons les anges. Lesquels ? Les saints anges ? Les anges qui sont restés avec Dieu, mais qui ne sont pas saints ? Les anges déchus ? Les uns comme les autres ? La Bible ne nous le dit pas, elle se contente de nous avertir que nous jugerons les anges. Énorme responsabilité. Pensez-vous être prêt à les juger ? Vous y préparez-vous ? Moi, je me dis, quand on pense à juger les anges, vous voyez une chose que je leur dirais un jour, à ceux qui ont péché. Vous, vous n'aviez pas peur de souffrir ou de mourir ou quoi que ce soit, et regardez la voie que vous avez prise. Et nous avions toujours à craindre de souffrir ou de mourir, devions toujours nous protéger, etc. Et regardez ce que nous avons accompli, nous qui étions mortels. Ça sera intéressant, n'est-ce pas, un jour. Dans le passage de 1 Corinthiens 6, et versets 2 et 3, les questions pour les saints, l'Église, de juger le monde et les anges. Le mot grec original traduit en français par « jugeront » est « krino », K-R-I-N-O, « krino ». D'après la Young Analytical Concordance to the Bible, la concordance analytique de la Bible de Young, le mot grec « krino », K-R-I-N-O, a plusieurs sens, en fonction du contexte. « Krino » peut vouloir dire « mettre en doute » ou « questionner »,« conclure », »,« condamner », »,« damner » ou « maudire », »,« décréter », »,« déterminer », estimer ou évaluer, juger, ordonner ou penser. En français comme en grec, quand on parle de juger quelqu'un, cela sous-entend souvent condamner ce quelqu'un, n'est-ce pas? Toutefois, juger n'est pas nécessairement synonyme de condamner. Dans le sermon sur la montagne, Christ nous dit de ne pas juger. Cela contredit-il les passages que nous avons étudiés jusqu'à présent? À nouveau, souvenons-nous que les traducteurs n'ont pas toujours appréhendé le sens exact des mots. Souvenez-vous que krino peut vouloir dire juger aussi bien que condamner. Compte tenu du contexte et des autres versets dans la Bible parlant de jugement, une meilleure traduction de krino dans ce passage aurait été condamner. Les traducteurs auraient plutôt dû traduire ce verset par « ne condamnez point, afin que vous ne soyez point condamnés ». Pour prouver ce que je viens de dire, je vous propose trois passages qui montrent que nous devons apprendre à juger, et à juger justement. Reportons-nous d'abord à Jean chapitre 7 et le verset 24. Jean chapitre 7 et le verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. Jugez selon la justice. Christ nous dit ici que nous ne devons pas nous fier aux apparences qui sont, parfois et même souvent, trompeuses. Mais de juger selon la justice. Il nous dit donc de juger, mais bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Paul nous dit ici de nous examiner pour savoir si ce que nous faisons est bien, de manière à ne pas être jugés. Et juger ici a plutôt le sens, à mon avis, de condamner. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et pourquoi est-ce que Paul disait cela? Il faut voir à nouveau le contexte. Il est clair dans ce passage que les Corinthiens devaient évaluer leur situation. Ce passage parle de l'impudicité qui régnait parmi eux, et d'un membre en particulier qui couchait avec sa belle-mère. Et Paul dit bien ici aux Corinthiens de pratiquer un juste jugement à ce propos. Nous devons donc apprendre à juger et à bien juger. Vous et moi, nous allons juger le monde. Et nous allons juger les anges. Quelle sorte de juge sommes-nous? Quand on juge, cela mène à deux résultats possibles. L'acquittement, ou la déclaration d'innocence, ou une condamnation. Et d'après la Bible, nous sommes jugés par nos paroles, par nos actions, et par ce qui se passe dans notre cœur. Que fait un juge qu'il s'agisse de juger des gens ou des anges? Un bon juge, premièrement, écoute. Deuxièmement, il rassemble les faits. Il s'informe. Troisièmement, il pèse les preuves. Il évalue le comportement de la personne examinée en fonction de ce que dit la loi. Et il fait preuve de discernement. Quatrièmement, il prononce un verdict, et espérons-le, un verdict juste, équitable et motivé par l'amour. Incidemment, il n'y a pas que dans la Bible que l'importance du juste jugement est mise en évidence. Dans de nombreuses sociétés ou corporations de ce monde, les fondés de pouvoir, les PDG, les cadres, réussissent dans leurs entreprises quand ils prennent de bonnes décisions. Ils s'entourent de personnes sachant juger les situations avec sagesse. J'ai pensé qu'il serait utile de reproduire certains commentaires faits par plusieurs PDG de ce monde à propos de l'importance qu'ils accordent aux bonnes décisions et aux bons jugements. Sur divers sites, vous pourrez trouver des commentaires comme suit. Je cite « Dans la vie, nous prenons des milliers de décisions. Certaines sont sans grandes conséquences, comme le choix de la lessive qu'on achète. » Tandis que d'autres ont une importance énorme, comme le choix d'un époux ou d'une épouse. Notre capacité à faire de bons choix a un impact évident sur la qualité de nos vies. Pour ceux qui dirigent soit des entreprises, soit des gouvernements, les conséquences de leurs décisions sont exponentielles, du fait des répercussions qu'elles ont sur la vie des gens. Tout compte fait, ce sont nos jugements qui déterminent nos succès ou nos échecs. Fin de citation. Intéressant. Intéressant. Très perspicace. À chaque fois que nous prenons une décision, si petite soit-elle, nous prononçons en substance un jugement à propos de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, à propos de ce qui est préférable ou peu conseillé, etc., etc. Aux questions « En quoi consiste le fait de bien juger les gens ou les situations ? Est-ce quelque chose qui nous vient instinctivement ? Est-ce une question de bon sens ou de chance ? Ou d'intelligence ?» J'ai noté sur l'Internet les réponses suivantes. Je cite « On est bon juge, par exemple, quand on s'entoure de personnes qualifiées, qui elles-mêmes prennent de bonnes décisions. C'est fondamental. » Les personnes dont vous vous entourez vous aident à avoir de bonnes stratégies et à prendre les meilleures décisions en période de crise. Vous savez, quelquefois, et j'ai un exemple personnel de quelqu'un qui m'est assez proche, qui me dit « Ah, Moi, j'essaye de me mettre avec ceux qui sont faibles, comme ça je suis un bon exemple pour eux. Le problème, c'est qu'en général, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devenez, en quelque sorte, ce que sont vos fréquentations. Les personnes que vous fréquentez vous influencent. Et la plupart du temps, ils sombrent dans leur voie. Ils pensent à être un bon exemple pour eux, mais ce n'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pour cela que nous avons besoin de nous entourer des meilleures personnes possibles, pas de n'importe qui. Sachons avoir du discernement dans ce domaine, frères et sœurs. Autre citation. Les responsables qui évaluent comme il faut la situation ne le font pas parce qu'une bonne idée leur passe soudain par la tête. Les décisions qu'ils prennent résultent d'une longue formation, d'une préparation. On ne se met pas à prendre de bonnes décisions du jour au lendemain. On devient bon à ce que l'on fait quand on sait écouter d'autres avis. Intéressant, n'est-ce pas? Un principe important dont nous devons nous souvenir, Proverbes chapitre 16, verset 1. Proverbes chapitre 16 et le verset 1. Proverbes 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous devons nous assurer que la réponse n'est pas la nôtre, mais qu'elle vient de l'Éternel. Ce n'est pas totalement clair dans ce verset, mais c'est ce que cela veut dire. Finalement, c'est la réponse divine qui est la meilleure. C'est la réponse de l'Éternel, et c'est celle-là que la bouche doit donner. Quelqu'un a fait le commentaire suivant, je cite, « Quand on comprend que prendre une bonne décision est un processus, on est disposé à revenir en arrière pour vérifier ce qu'on a fait et apporter les corrections nécessaires avant de continuer. » Et quand on fait cela, on a bien plus de chances de réussir. Par contre, quand on aborde une décision comme s'il s'agissait d'un simple événement et qu'on passe immédiatement à autre chose, on doit s'attendre à échouer car on n'a pas la réflexion ni le soutien nécessaire. Intéressant, n'est-ce pas? Je trouve ces commentaires utiles. Il est question de décisions que prennent les cadres de ce monde, mais les principes sur lesquels ils s'appuient s'applique au domaine spirituel, n'est-ce pas? Paul a aussi parlé de notre évaluation. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ou une femme éprouvée. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. À l'approche de la Pâque et des pains sans levain, nous devons nous évaluer en ce domaine. Vous et moi. Moi aussi. Nous devons tous faire cela. Paul parle ici de juste jugement, des décisions que l'on prend et qui doivent être basées sur la sagesse et sur la parole divine. À propos de ceux qui prennent de bonnes décisions, ce qui revient à dire ceux qui sont de bons juges, n'est-ce pas? Un internaute a fait le commentaire suivant, et je cite à nouveau, « Entourez-vous de personnes ayant plus d'expérience que vous. Point n'est besoin de réinventer la roue et de faire les mêmes erreurs que d'autres, quand vous avez de bons exemples sous le nez. Tirez des leçons des fautes que commettent les autres, afin que vous n'ayez pas à apprendre autant ou par la souffrance. » Sachez observer et écouter les autres. Intéressant. C'est précisément ce que faisait Paul. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voulez apprendre à prendre de bonnes décisions? À bien juger? Inspirez-vous de l'exemple de Christ dans les situations dans lesquelles il s'est trouvé et méditez ce qu'il a dit ou fait. Prenons un exemple, il y en a beaucoup, mais prenons un exemple. Et nous prendrons par exemple l'exemple de Jean chapitre 8 et le verset 1. Jean chapitre 8 et le verset 1. Il y a beaucoup de sagesse dans cet exemple. Jean chapitre 8 et le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Deutéronome 22, versets 22 et 24, c'est à ce passage dont il fait, auquel ils font allusion. « Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Déjà, à ce stade ici, combien de nous auraient réagi déjà autrement? Combien d'entre nous auraient discuté? Christ n'a rien dit. Regardez la sagesse qu'il y a dans cette décision. Il n'a rien dit. Il s'est contenté d'écrire sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la pierre contre elle. » Il garde son calme et il leur donne quelque chose de difficile. Il leur donne de quoi réfléchir. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Nous saurons un jour ce qu'il a écrit sur la terre. Il a peut-être écrit les noms de certaines personnes qui, lorsqu'ils ont vu que leur nom était écrit là, se sont sentis visés. Nous le saurons un jour. Il y a toutes sortes de spéculations là-dessus, mais intéressant. Nous le saurons un jour. Alors Jésus s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est intéressant ça. Ne pêche plus. Ne retourne pas à ce que tu faisais avant. Ne fais plus la même chose. Change. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je voudrais vous lire un autre commentaire glané sur Internet. Je cite, « Le rôle le plus important pour un chef dans n'importe quelle organisation est de prendre de bonnes décisions, autrement dit de bien juger, de prendre des décisions sages, basées sur les faits et produisant les résultats désirés. Quand un responsable prend généralement de bonnes décisions, le restant importe peu. Évidemment, il est humainement impossible de toujours prendre la bonne décision, mais les bons chefs prennent beaucoup de bonnes décisions quand des décisions importantes doivent être prises. » Fin de citation. Cela nous décrit-il ? Tel devrait être le cas. Bien juger, c'est prendre de bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut premièrement être inspiré, c'est-à-dire être proche de Dieu. Deuxièmement, être juste, craindre Dieu. Troisièmement, posséder les faits, la vérité. Et cela s'applique à nous quand nous faisons notre examen personnel. Quels sont les faits? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, ça ce n'est pas facile. Pour autant, pour vous aussi bien que pour moi. Nous sommes humains, c'est facile de nous séduire, de nous auto-séduire. Il faut quatrièmement bien comprendre ce dont il est question. Et cinquièmement, tenir compte du plan d'ensemble. Il y a un jugement qui a lieu en ce moment, frères et sœurs. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. Un Pierre 4, 17, c'est le moment où le jugement en grec crima, condamnation ou jugement, l'un ou l'autre, selon le contexte, un bon, espérons-le, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Comme cela est expliqué dans 1 Samuel 16, Dieu ne se fie pas aux apparences, il regarde directement au cœur. Comme cela est expliqué dans la parabole des mines, dans Luc 19, Dieu nous juge par nos paroles. Et comme cela est expliqué dans 1 Jean 3, Dieu nous juge par nos œuvres. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et Dieu écoute ce que nous disons. Il regarde ce que nous faisons. Et il va droit au cœur pour savoir de quelle fibre nous sommes faits. J'ai pensé qu'il serait utile de lire quelques brefs extraits d'un article écrit par John Ryan, président du Centre de Leadership Créatif, ancien chancelier de State University de New York, ancien pilote et vice-amiral en retraite, dans son article intitulé « Quatre domaines majeurs dans lesquels les leaders font preuve de bon jugement ». Quatre domaines majeurs dans lesquels les leaders font preuve de bon jugement. On peut lire ceci, et je paraphrase. C'est par cupidité que des banquiers spécialisés dans les investissements ont cherché à se sucrer en ignorant les risques. Autre citation de lui, à mon avis, une vanité incontrôlée, plus que l'argent, proprement dit, est la cause principale du problème. Un peu plus loin, une vanité incontrôlée tord gravement le jugement d'un chef. Autre citation de lui, « Le jugement débute par l'humilité. L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne savons pas tout. Elle exige des actes qui ne cessent de nous rappeler que nous ne sommes pas plus importants que l'organisation à laquelle nous appartenons. » Une autre déclaration un peu plus loin, « Un aspect critique du jugement consiste à reconnaître ses erreurs et à les rectifier. » Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces déclarations et qu'elles sont fortes à propos en cette période de l'avant-Pâques. Nous allons, vous et moi, juger le monde et nous allons juger les anges. Cela implique que nous devons enrichir notre cœur et notre esprit afin d'être, le moment venu, dans le monde à venir, de bons juges. De bons juges que le monde et les anges admireront et respecteront pour leur amour et leur justice. Pour bien nous préparer pour cette fête qui s'en vient, pour la Pâque et pour la fête des pains sans levain, cinquièmement, pour bien nous préparer pour ces fêtes, nous devons garder les yeux sur notre gloire future. Cela nous aide aussi. Il faut savoir nous concentrer sur ce qui est important réellement. Gardez les yeux sur notre gloire future. Éphésiens chapitre 4 et le verset 12, et nous souvenir que, franchement, nous apprenons tous les jours, j'apprends tous les jours. Nous ne savons pas tout, loin de là. Et la Bible est une œuvre si merveilleuse qu'elle s'amplifie continuellement. Nous continuons de la lire et puis il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient. Pourquoi ? Parce que Dieu nous ouvre l'esprit davantage et nous permet de voir des choses que nous ne voyions pas avant. Alors, et j'espère que c'est comme cela pour vous. Nous ne savons pas tout, nous sommes formés, nous sommes en cours de formation, et cette formation continue de jour en jour. Éphésiens chapitre 4, verset 12, la deuxième partie du verset, Dieu a mis en branle des structures, un encadrement en quelque sorte, un système de gouvernance pour le perfectionnement des saints, pour notre perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là tout un processus. Nous sommes en train de parvenir à l'unité de la foi du Fils de Dieu. Pas une foi humaine, mais la foi de Christ. En train de parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Et nous nous rapprochons de l'état d'homme fait et de la stature parfaite de Christ de jour en jour. C'est le moment de l'année de nous interroger, de nous poser la question, est-ce que réellement cela me décrit? Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Et je pense que vous et moi, nous pouvons tous dire que nous pouvons faire mieux. Sixièmement, pour bien nous préparer pour la Pâque et la fête des pains sans levain, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, dans notre corps et dans nos pensées. Est-ce que c'est cela que j'ai fait les 12 derniers mois depuis la dernière Pâque? Je dois m'interroger là-dessus et vous aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu et non pas à nous-mêmes. Hein, ça, c'est difficile à comprendre pleinement, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devons glorifier Dieu dans la manière dont nous regardons ce qui nous entoure. Nous regardons ce qui nous entoure. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, a écrit Paul, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean chapitre 2 verset 16 pour nous tous. 1 Jean chapitre 2 et le verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Rappelez-vous Matthieu 18 et le verset 3. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les yeux, deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Évidemment, c'était une image. Il ne disait pas que nous devons littéralement nous arracher les yeux. L'Église aujourd'hui serait faite d'aveugles, si c'était le cas. Il faut bien comprendre ce qu'il essayait de nous faire comprendre ici. S'il y a quelque chose qui est pour nous une pierre d'achoppement, qui nous fait pécher, nous devons nous en débarrasser. Ça prend du courage de faire cela, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devons glorifier Dieu en choisissant quoi ou qui écouter, et dans la manière dont nous écoutons. Souvenons-nous de la nature d'une grande partie de ce que nous entendons, surtout aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez des boucs avant. Nous étions tous des boucs avant. Avant d'être appelés. Avant d'avoir été rachetés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce que Satan émet sature littéralement tout notre monde. Dans Luc chapitre 8 et le verset 18, je le citerai simplement, faute de temps, mais il est écrit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ». Cela nous rappelle à nouveau... Qu'est-ce que nous écoutons ou qui est-ce que nous écoutons? Pendant ces 12 derniers mois, depuis la dernière Pâque, qu'est-ce que nous avons écouté? Qui nous avons écouté? Car on donnera à celui qui aime et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Celui qui se fait des illusions, il croit avoir mais il n'a pas. Luc 8, 18. Dans Proverbe 19 et le verset 27, il est écrit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Incidemment, il y a des choses que nous avons besoin d'entendre. Proverbe chapitre 22 et le verset 17. Proverbe 22 et le verset 17. « Prête l'oreille. Prête l'oreille. Écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. C'est un conseil ici de la sagesse personnifiée. Proverbes chapitre 3, verset 11. Proverbes chapitre 3 et le verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Pauvre et sage. Sage. On regarde souvent les apparences. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Une courte petite histoire dans Ecclésiaste 9, les versets 14 à 16, si vous voulez noter. Nous devons glorifier Dieu par notre bouche également. Nous devons glorifier Dieu par notre bouche. Romains chapitre 14 et le verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Les 12 derniers mois, est-ce que j'ai glorifié Dieu par ma bouche? Par ce que j'ai dit. Il nous arrive tous de dire des bêtises. Tant que nous sommes humains, il y a des moments où nous disons des choses où nous ne glorifions pas réellement Dieu par ce que nous disons. Espérons que c'est pas souvent que cela arrive, mais cela arrive, n'est-ce pas? Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit réellement a motivé beaucoup de mes actions depuis la dernière Pâque? Est-ce que je suis aujourd'hui un chrétien plus converti que je ne l'étais? J'ai entendu un jour un pasteur dire que la bouche est uniquement faite pour manger. Hein, c'est faux, c'est faux. C'est aussi par elle que nous exprimons les pensées de nos cœurs. C'est par elle que nous chantons et louons Dieu. Et c'est par elle que nous embrassons les êtres aimés. Et pour ce qui est de ce qui sort de notre bouche, gardons à présent l'esprit ce que l'apôtre Jacques a dit. Jacques chapitre 3 et le verset 5. Jacques chapitre 3 et le verset 5. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et vous pouvez lire le restant, vous connaissez probablement le restant. Mais souvenons de cela aussi alors que nous nous préparons pour cette Pâque qui vient bientôt. Proverbe 17 et le verset 9. Proverbe chapitre 17 et le verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Combien de fois, vous et moi, ces 12 derniers mois, est-ce que nous avons essayé de couvrir une faute, plutôt que de nous accrocher dessus et de dire « aïe, 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 il n'aurait jamais dû faire ça, hein. Ah, c'était pas malin, hein. C'était pas futé du tout, hein. Ah, ça, je suis pas d'accord, hein. » Écoutez, vous et moi, nous faisons tous des bêtises. Tant que nous sommes humains, il nous arrive de faire des choses, et espérons, pas souvent, moins souvent, mais il nous arrive toujours de faire des bêtises, de raconter des idioties. Mais est-ce que nous cherchons à couvrir ces fautes? Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. Avons-nous tendance à couvrir les fautes, ou à les rappeler, ou à les répandre, à faire du commérage? Rappelons-nous qui entrera dans le royaume, incidemment, aussi. Psaume 15, le psaume 15 et le verset 1. Psaume 15 et le verset 1. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Sous-entendu, sa tente spirituelle, ta tente spirituelle, dans ton tabernacle, qui sera dans ton royaume, pour ainsi dire. C'est de cela qu'il veut parler. Qui demeurera sur ta montagne sainte, à Sion, la Sion spirituelle? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Quand nous avons pris une décision, il ne faut pas revenir dessus. Changer d'avis. Quelqu'un va dire, ah oui, moi je m'étais trompé. Ah oui, mais il faut être responsable. Si on a pris un engagement, il faut être responsable de cet engagement. Être digne de confiance. Un autre passage de Proverbes s'applique à ce que nous disons. Proverbes chapitre 16, verset 16. Proverbes chapitre 16 et le verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à de l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Lucifer a fait l'expérience de cela. Et les démons aussi. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Gardons ces sages conseils à l'esprit dans notre préparation par la Pâque et la fête des pains sans levain, quand nous effectuons ce bilan spirituel. Proverbes chapitre 10, verset 19, nous étions dans Proverbes, il y a un proverbe ici important pour nous aussi. Dans Proverbes chapitre 10 et le verset 19, celui qui parle beaucoup est toujours à nouveau question de la manière dont nous utilisons notre bouche. Est-ce que nous glorifions Dieu par ce que nous disons? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il y a des individus qui sont de vrais moulins à paroles, comme on dit. Des gens qui parlent comme ça, qui n'arrêtent pas. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Plus on parle, plus on va raconter des bêtises. Ça, c'est inévitable. Si vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de parler, il y a un moment donné où il va sortir des énormités. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu chapitre 12 et le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ce que les gens diront devant Christ les justifiera ou les condamnera. Bon, il n'est pas question ici des paroles passées dont on s'est repenti et qui par conséquent ont été effacées. Faisons preuve de sagesse, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler et un temps pour se taire, n'est-ce pas? Un temps pour parler et un temps pour se taire. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11. Et nous terminerons par ce passage. Proverbe chapitre 25 et le verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. J'espère que ces paroles de notre Dieu d'amour sur lesquelles nous avons réfléchi ensemble aujourd'hui sont pour nous comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, des paroles dites à propos. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, passez dans l'intimité avec notre Père Céleste, et je vous dis bon courage, au revoir, et à bientôt.